17h03, et ça tombe à Québec par endroit. Continue d'écrire 418-971-1021. Audrey nous parle d'un déluge à Wendake, Loretteville. Mes projections, en fait, je vais juste checker le radar, puis je vous dis ce que je vois sur le radar, là. J'ai pas grand mérite, là. Projections, prédictions, à l'effet que ça allait passer un petit peu plus au nord de centre-ville de Québec, mettons, là. Ça semble se concrétiser. On va se faire frapper un petit peu plus tard par des fortes pluies, mais pour ce qui est du plus important, ça devrait passer un petit peu au nord, là, du centre-ville, du moins, de Québec.
Pour te rendre heureux, il manquerait juste des orages, c'est ça que je comprends.
Ben là, ça a l'air qu'il y en a par endroit. Okay. Tantôt, on nous disait qu'à Saint-Émile, il y avait du tonnerre, mais encore là, on est un peu au nord, puis nous autres, notre fenêtre est de l'autre bord, fait que je vois comme pas d'orage, moi, en ce moment, fait que je suis pas comblé à ce niveau-là, mais on va être comblé avec une belle discussion dans les prochaines minutes. Je m'ennuyais de lui, ça fait longtemps qu'on y a pas parlé, c'est notre pharmacien préféré, Jean-Philippe Bergeron, qui est au bout du fil. Salut JP!
Bonjour!
T'es dans quel coin, toi, là?
Saint-Marc-des-Carrières, et ça tombait il y a une heure, l'enfer, là, c'était le déluge, puis là, ça s'est calmé un peu.
Bon, parfait.
J'aurais pas besoin de te texter, voilà l'information directe.
Ben voilà, merci JP. On voulait te parler aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, un sujet qui était arrivé dans l'actualité déjà il y a quelques semaines de ça, même par le passé, c'est pas la première fois là, qu'on parle du Benadryl puis d'un certain débat à savoir si ça doit être en vente libre. Et là, il y a le Centre antipoison du Québec, qui s'est officiellement positionné contre la vente libre de diphénhydramine, qui est le Benadryl. Et ce qu'on nous donne comme gros argument, ben, c'est notamment la hausse des intoxications liées à ce médicament-là. Penses-tu que c'est la chose à faire d'enlever ça de la vente libre?
Définitivement, parce que l'argument de la hausse des cas d'intoxication est évidemment très, très solide, mais on peut très facilement rajouter un argument, c'est qu'il existe des alternatives beaucoup plus sécuritaires, aussi efficaces pour la plupart des besoins. Là, je comprends que les gens qui font des surdoses, il y a un bon pourcentage que c'est des gens qui n'ont pas respecté là, le dosage, mais ne serait-ce que pour les gens qui ont besoin d'un antihistaminique, il y a des produits beaucoup plus modernes, beaucoup plus facile à prendre et surtout beaucoup plus sécuritaire. Donc, moi, je suis totalement pour qu'on le retire des tablettes. Il peut garder sa place, dans le sens que sa place dans nos choix thérapeutiques. Et c'est ce qui va probablement arriver, puis en tout cas, je l'espère, c'est qu'il va être relocalisé derrière le comptoir, donc hors d'accès du public, mais sans nécessité d'une prescription.
Bibi, ça, c'est une question qui revient beaucoup à toutes les fois qu'on parle de ça, d'enlever de la vente libre puis de dire on va le mettre derrière le comptoir, que ça va rester accessible sans prescription. Puis là, souvent, les gens demandent, ben là, à quoi ça sert? Est-ce que c'est simplement le fait que au moins tu vas avoir le pharmacien qui va pouvoir avoir une discussion avec la personne qui veut s'en procurer pour y parler des dangers?
Ben oui, entre autres, le pharmacien va faire un counseling, mais avant tout ça, il va commencer par s'assurer que c'est le bon produit dont la personne a besoin. Puis dans certains cas, ça peut être effectivement ça. Et peut-être, dans d'autres cas, l'amener vers un autre produit qui va être plus intéressant, plus sécuritaire. Puis aussi, lorsque c'est derrière le comptoir, on appelle ça l'annexe 2, c'est hors d'accès du public, sous contrôle d'un pharmacien, sans ordonnance, mais ça nous oblige à faire une évaluation et ensuite confiner l'information au dossier. Et de cette façon-là, il y a un certain suivi qui se fait. Donc, des gens qui voudraient en utiliser pour la mauvaise raison, ils ont déjà une première barrière, là, ils doivent s'adresser au pharmacien. Puis, le pharmacien va contrôler les quantités qui sont remises en lien avec le problème de la personne, puis l'usage que la personne va en faire. Mais aussi, même si c'est sans ordonnance, lorsque c'est en annexe 2, le pharmacien a tout à fait le droit de refuser de le servir s'il pense que c'est pas approprié, que c'est pas le bon traitement, que ça comporte un risque, parce que Dieu sait qu'il y en a des risques avec ce produit-là. Donc, moi, je pense qu'on va juste assurer un meilleur usage, limiter le mésusage, puis tout le monde va être content, puis tout le monde va être servi s'ils ont besoin d'antihistaminique, parce que si c'est celui-là, c'est approprié, ils vont être capables d'avoir là, assez facilement en pharmacie. Mais le pharmacien va se commettre, puis qui va signer son nom sur le service de Benadryl, puis va être responsable de s'être assuré qu'au meilleur de sa connaissance, là, suite à l'entretien avec la personne, c'est effectivement le bon produit.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des circonstances où c'est la meilleure option? Si oui, c'est quoi ces circonstances-là?
Moi, personnellement, le seul cas dans lequel je le recommande, c'est quelqu'un qui a une allergie quand même sévère, puis qu'il y a une réaction là assez rapide. Le plus fréquent, là, on voit des gens, il y a beaucoup de camping dans nos secteurs, là, des gens qui se font piquer par une mouche, puis tout à coup, ça se met à enfler rapidement. Ils font une réaction exagérée qui met pas la vie en danger. Là, c'est pas dans le cou, puis c'est pas quelqu'un, par exemple, qui est allergique aux guêpes, là, qu'à ce moment-là, ça prend une épipène s'il se fait piquer par une guêpe et une évaluation médicale. Puis quelqu'un qui a une piqûre, puis qui fait une réaction un peu plus forte que des simples allergies saisonnières, souvent, moi, j'aime bien commencer avec le Benadryl pour comme casser la chose, parce qu'il y aurait un potentiel un petit peu plus élevé, malgré que c'est en train d'être contesté là, par les études. Il y aurait un potentiel un petit peu plus élevé là, de casser une réaction allergique rapidement. Puis ensuite, on peut prendre le relais avec des antihistaminiques de deuxième génération là, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Mais dans le cas d'une réaction, tu sais, un rash majeur, là, quelqu'un que je sais pas, il s'est baigné dans la boîte, puis là, il y a un rash sur tout le corps, puis il n'y a pas de motif de consulter un médecin immédiatement, mais il y a des symptômes très sévères. Dans ces quelques cas-là, entre autres, le Benadryl peut encore avoir sa place.
Est-ce que tu as l'impression que ça va se faire relativement facilement, l'interdiction du Benadryl en vente libre? Tu sais, je veux dire, qui va s'opposer à ça? Il semble y avoir pas mal un consensus. As-tu l'impression qu'on va aller de l'avant?
Moi, j'ai l'impression qu'on va aller de l'avant. J'espère qu'on va aller de l'avant. C'est sûr que les processus réglementaires, il y a toute une chaîne d'événements qui doit être respectée. Donc, est-ce qu'on va voir ça à très court terme? Je ne pense pas. Mais je ne verrais pas pourquoi on s'y opposerait. Et ce ne sera pas un cas unique, là. Il y a plusieurs produits qui sont en annexe 2 actuellement et depuis longtemps pour des raisons de sécurité comme ça. Puis, c'est pas, j'ai jamais vu d'aspect négatif à la chose.
Quand tu parles de produits en annexe 2, c'est quoi les exemples qu'on connaît le plus, tu sais, de produits comme ça, qu'on peut aller chercher sans prescription, mais qu'on va avoir à passer par le pharmacien?
Bon, l'exemple classique, là, c'est le Gravol, qui est un cousin, d'ailleurs, du Benadryl, ce qui va sûrement faciliter les discussions sur le sujet, là. Le Benadryl, là, tu l'as bien dit tantôt, bravo d'ailleurs, c'est du diphénhydramine, c'est le nom de la molécule. Alors, le Gravol, c'est du dimenhydrinate. Le nom se ressemble, c'est pas pour rien. C'est des molécules qui sont très apparentées. C'est des cousins, puis on le garde derrière le comptoir pour des raisons de sécurité. Il y a aussi certaines forces de Advil, aussi simple que ça. Là, le Advil qui est en tablette, en vente libre, ça va être du 200 mg. Il existe du 400 mg qu'on garde derrière le comptoir, en annexe 2. Puis, sinon, il y a certains sirops, des sirops contre la toux qui sont à base de codéine, qui pourraient être mal utilisés, mais aussi qui peuvent présenter des risques sérieux. Donc, on veut s'assurer que chaque personne qui part avec ça a en main l'information pour sa sécurité. J'ai même un exemple concret. J'ai un de mes patients qui, tristement, avait utilisé un produit qui a été retiré du marché depuis, là, mais qui était dans la même famille que le Benadryl. Ça s'appelait le Istantil. C'est un antihistaminique de première génération avec les mêmes inconvénients que le Benadryl, là, entre autres la somnolence, diminution de la vigilance. Puis lui, sous cette... il en avait utilisé. Je l'espère pour les bonnes raisons, mais bref, il a conduit son véhicule, puis a causé un accident de la route grave. Puis lui, ça fait 10 ans que je le connais, puis il est très peu fonctionnel à cause des séquelles de son accident, qui, selon le rapport du coroner, a été causé par l'utilisation du Istantil, qui a diminué sa vigilance, puis qui est en cause, là, la cause principale de l'accident grave qu'il y a eu là, dans le coin des chutes Montmorency en 2013, je pense, 2014.
À suivre. JP Bergeron, autre sujet dont on voulait parler avec toi, c'est dans l'actualité aujourd'hui, une pénurie d'opioïdes en pharmacie au Québec. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? C'est quelque chose qui vient de toucher, toi?
Oui, ça nous touche. Le terme pénurie d'opioïdes n'est pas faux, mais on peut facilement le filtrer un peu pour dire il y a une pénurie beaucoup plus spécifique là, de une à deux forces d'un opioïde en particulier. Okay. Donc, c'est pas une pénurie d'opioïdes là, at large que tous les médicaments, là, tous les opiacés sont touchés. C'est vraiment très spécifique. Donc, c'est le dilodide et son générique dans les forces de 1 et de 2 mg pour lesquelles il y a des difficultés d'approvisionnement en ce moment. mais c'est pas un problème généralisé. C'est que éventuellement il y a eu probablement un problème avec approvisionnement d'un des ingrédients actifs ou pas, ou un problème des fois dans une usine. Des fois, ça peut aussi être lors de l'importation des matières premières, là, ce qu'on appelle un import ban, c'est qu'ils vont comme bloquer des choses aux douanes plus longtemps que prévu. Puis là, il s'agit que une compagnie soit retardée dans sa production, ce qui fait que toutes les gens qui en utilisent, ou en tout cas tout ce qui est distribué, doit être distribué via le médicament original ou l'autre compagnie qui fait du générique, ce qui augmente leur demande soudainement. Donc, eux autres, tout à coup, sont plus capables de fournir parce que la demande a été augmentée là, de façon très rapide. Puis là, ça fait un problème de back-order, puis de back-order rebond. Puis c'est très, très fréquent en pharmacie. Puis ça touche tous les médicaments. Effectivement, en ce moment, il y a un problème avec le Dilaudide 1 et 2 mg et ses génériques. Il semblerait que ça va être réglé là, d'ici 6 à 8 semaines.
Est-ce qu'on a des alternatives en quantité suffisante pour répondre à la demande?
Tout à fait. Dans le fond, en ce qui me concerne, dans mes succursales en ce moment, il n'y a personne qu'on a eu besoin même de se tourner vers une alternative qui serait une autre molécule de la même famille, un autre opiacé. C'est plutôt que les gens, mettons, qui prennent les plus grosses quantités, ben, on va leur servir une semaine à la fois pour se garder du stock parce que ce qui arrive à ce moment-là, quand il y a un BO, les grossistes vont rationner les quantités que chaque pharmacie peut commander pour pas qu'il y ait un intelligent qui dise hey, « moi, je vais en commander une batch, puis là, ben, tout le monde va venir chez nous. » Donc, c'est réparti là de façon stratégique dans toutes les pharmacies. Puis, j'ai pas vu personne qui en a manqué. Alternative comme changer de molécule, je l'ai pas vu encore. On a des alternatives comme donner une force un peu plus élevée, mais couper les comprimés. Ça, c'est une chose. Puis nous, ben, la gestion de nos inventaires puis le volume qu'on distribue à la fois peut aller là, aider à éviter que quelqu'un en manque. Mais j'ai pas vu personne, à ma connaissance, là, qui n'a pas pu être servi. Puis dans les médias, ils parlent beaucoup. Il y a des gens qui peuvent attendre jusqu'à 48 heures. En fait, là, de ce que j'en comprends, là, à moins qu'il y ait des choses que je sache pas, c'est pas que les gens en ont plus et doivent attendre 48 heures sans traitement, parce que ça, ce serait pas acceptable. Puis on passerait à une alternative, c'est plutôt qu'on va encourager les gens à appeler d'avance pour nous aider à gérer les stocks en fonction des demandes, faire un peu plus de forecast sur qu'est-ce qu'on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on distribue. Donc, le problème est réel, puis il atteint tous les grossistes, toutes les chaînes et bannières de pharmacie, parce que c'est pas le grossiste le problème, c'est les fabricants. Puis, mais à ce que je sache, là, il y a pas d'enjeu majeur, puisque le retour à la normale est déjà prévu là, selon là, les fabricants.
JP, je suis curieux, avant de te laisser partir, qu'est-ce qui cause le plus de visites en pharmacie dans cette période-là de l'année, en plein mois de juillet, vacances de la construction, des petites familles qui sont en vacances un petit peu partout, puis qu'est-ce qui amène le monde à la pharmacie?
Écoute, c'est très intéressant, puis je pourrais te répondre en 20 minutes, je sais que c'est pas ça que tu veux. La réponse, c'est que ça varie beaucoup selon les régions où est-ce qu'on est.
Ah ouais.
Par exemple, en Estrie, j'ai une succursale en Estrie, les tiques, c'est catastrophique. Là, on en a une douzaine de cas de tiques par jour.
Wow.
Donc, je te dirais, ça se démarque. Sinon, ben, si on parle d'une succursale comme Saint-Ubalde, il y a des gros campings là, voisins. Donc, beaucoup de gens qui ont oublié leurs médicaments, qui ont une petite blessure mineure, des coups de soleil, des petites indigestions. Fait que je te dirais, ça varie beaucoup. Mais oui, la période des vacances modifie un peu là, la demande versus la demande en plein mois de janvier. Puis, mais ça dépend beaucoup là, des secteurs. T'es-tu une région touristique ou pas? Fait qu'on a un petit peu de tout, mais des coups de soleil, des piqûres de mouches, des déshydratations mineures, des tiques.
Mais les tiques, ça, je veux pas prendre trop de ton temps, mais ça m'a accroché sans faire de mauvais jeu de mots. Ça, à ta connaissance, est-ce que c'est pire que les années antérieures?
C'est en évolution constante. Alors oui, la demande est de plus en plus présente. C'est par secteur, puis ça s'étend. Puis moi, je le vois dans ma succursale qui était... Vois-tu, à Saint-Ubalde, Saint-Marc-des-Carrières, j'ai peut-être un cas de suspicion de tique par année, alors qu'au Lac-Beauce, on en a 10 par jour tout l'été. Mais il y a 3-4 ans, c'était peut-être 3 à 6 par jour. Là, je te lance des chiffres comme ça, là, mais je vois voit dans les secteurs qui sont déjà atteints une croissance là, non négligeable. Il n'y a pas de doute.
Jean-Philippe Bergeron, notre pharmacien préféré, merci beaucoup pour ton temps puis on se reparle bientôt.
Hey, merci.
Salut mon ami, bye-bye. Jean-Philippe Bergeron, pharmacien. Au retour, les nouvelles avec Mathias Turcotte. Puis je vous gâte, j'ai encore 2 billets pour la zone Kepler pour le match boulevard des Capitales de Québec le 20 août prochain. Je vous donne ça. Préparez le 418-971-1021 texto.
Le retour.
17h24, encore une demi-heure et des poussières à passer ensemble. Je vous rappelle que dans ma poche arrière, j'ai encore 2 billets pour la zone Kepler pour le match du 20 août prochain des Capitales. C'est le match boulevard. La zone Kepler, ça comprend notamment 3 consommations par personne et le popcorn à volonté. Restez pas trop loin du 418-971-1021 texto. Mettons que vous dites « Ouais, mais là, moi, j'arrive à la maison, là. Peux-tu le faire, ton concours? » Tu vas sortir de ta voiture, tu vas télécharger l'application mobile Boulevard 102.1 et d'ici 18h, ben, tu vas courir la chance de gagner tes 2 billets pour la zone Kepler pour le match Boulevard 102.1 des Capitales de Québec parce que là, c'est pas l'heure du concours, c'est l'heure des nouvelles avec Mathias Turcotte.
2 hommes ont été reconnus coupables du meurtre de Daniel Langlois, entrepreneur et philanthrope bien connu du Québec et de sa femme. Les événements remontent en 2023. Les cadavres du couple qui ont été retrouvés dans leur véhicule incendié devant leur demeure en Dominique du côté des Caraïbes. Les 2 coupables, Jonathan Lehrer et Robert Snyder Jr., étaient des voisins du couple. Pour accéder à leur résidence, le couple devait passer sur le terrain des 2 hommes, des 2 Américains à chaque jour. Puis il y avait une saga judiciaire en lien avec cette petite route-là qui serait à l'origine du double meurtre. L'annonce de la mort du couple avait provoqué une onde de choc au Québec, notamment dans le milieu culturel.
Fait que rappeler les circonstances, en gros, ils se sont fait tuer parce qu'ils passaient sur le chemin des Américains.
C'est une chicane de voisins.
Mais ça ressemble à ça, oui.
Moi, j'ai un ancêtre qui a été tué par son voisin au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pourquoi?
Je sais pas c'est d'où ça a parti cette histoire-là, mais ça a terminé en meurtre et l'assassin s'en est sorti. Il avait engagé le meilleur avocat de la région et avait été innocenté. Puis c'est une histoire qui a bien traumatisé ma famille, ce qui fait que j'ai extrêmement peur
des voisins,
des chicanes de voisins. Ouais, voilà, vous savez tout maintenant.
Mais quand tu dis ancêtre, là, genre...
Ah, c'est genre au début du siècle, là. De l'autre siècle.
C'est ça, parce que début
ma
du
mère serait vraiment meilleure. Si elle nous écoute, ça pourrait nous appeler pour nous raconter l'histoire. Ce serait beaucoup plus intéressant.
Mais non, mais quand même, merci pour ta contribution.
Ben, cette histoire-là se transmet de génération en génération.
Oui, puis on se fait peur. C'est comme faire bien attention de bien t'entendre avec tes voisins.
Avec de moins en moins de détails, mais au moins la peur des voisins.
Mais je peux vous dire comment il l'a tué. Voulez-vous?
Ben voyons,
oui,
ben,
oui,
mais c'est quoi? C'est comme le bonhomme 7 heures dans votre
mais
famille?
Mais c'est vrai, vrai comme je suis là. Oui, oui, oui. C'est vrai comme je suis là.
Mais comment qu'il l'a tué?
À coup de pelle. Vous me croyez pas?
Oui, je te crois. C'est juste, je m'attendais pas à ça là. Merci Antonine.
Ça fait plaisir.
Non, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que c'est un peu une légende urbaine presque.
C'est une légende
dans votre
familiale,
famille, ouais, c'est ça.
Mais je viens pas d'une famille qui raconte des bobards. Okay. Alors, tu peux continuer ton bulletin de nouvelles.
Un voleur a plaidé coupable pour avoir volé 200 000 $ en biens dans 4 résidences de Québec. C'est Pascal Frenette qui a réalisé ces 4 vols entre 2017 et 2025. Puis on n'était pas à ses premières fois. Là, depuis 1998, on parlerait d'une 100aine de vols que l'homme aurait commis. On a réussi à relier les 4 événements parce que l'homme a laissé son ADN sur les différents lieu. Puis quand je dis il a laissé son ADN, vous allez voir, il y a quand même des façons particulières de le faire. Dans 2 résidences, l'homme, après avoir fait le vol, a pris le temps de boire quelques bières et de se fumer quelques cigarettes dans les résidences en question.
Après avoir travaillé fort, là.
Dans un autre endroit, il a oublié sa tuque et dans l'autre, des gants en latex. Visiblement, même s'il avait fait 100 vols, 100aine de vols, il y avait quand même quelques lacunes dans sa façon de faire.
J'appellerais ça un génie du crime.
Ben moi, quand j'ai un ancêtre qui a été victime de plusieurs vols, puis comment on a retrouvé le suspect, c'est parce qu'il avait oublié un gant aussi sur place. Fait que moi, je suis capable quand même de relate aussi à cette histoire-là.
Lui, c'était pas quelques bières qu'il avait pris.
Non, c'est ça. Lui, c'était vraiment, il avait oublié un gant.
OK. Ouais. La quatrième introduction qui a été la plus lucrative pour l'homme, on parle de 124 000 $ en biens dérobés dans une résidence du quartier Saint-Louis. Des guitares électriques, des amplificateurs, des bijoux, des vélos de route et de multiples autres objets.
C'était un musicien sportif.
Un jeune homme de 24 ans est condamné pour 4 ans et demi après avoir élaboré un projet de tuerie sur la côte nord. Lors de son arrestation, des policiers qui ont mis la main sur le journal intime du jeune homme, qui renfermait des plans pour se rendre à l'école secondaire de Port-Cartier et faire tout péter avec des bombes artisanales. On avait d'ailleurs saisi des engins explosifs comme des pots de poudre de pyrotechnie ainsi qu'un cahier noir avec des dessins d'armes longues dans la demeure du jeune homme de 24 ans. La raison de ce projet-là, ce serait un peu de la vengeance parce que l'homme aurait subi de l'intimidation durant plusieurs années au sein de cet établissement secondaire-là. D'ailleurs, il avait été condamné une première fois en lien avec des menaces visant le même établissement.
J'ai déjà vécu, moi, deux confinements. Non, puis là, j'ai l'air de niaiser, je vous jure.
C'est sûr, tu niaises.
Antonine, tu peux aller, va chercher confinement barricadé, école polyvalente, le Carrefour, et confinement barricadé, cégep de Jonquière. Okay. J'ai vécu deux confinements barricadés en 3 ans. Un en secondaire 5, puis un au cégep. Et c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, de cette aventure-là, qui est bien stressante pour certains.
C'est clair.
Puis c'était particulier aussi parce que nous autres... au secondaire, quand c'était arrivé, on était allé se cacher dans la bibliothèque. Puis là, on était tous dans la bibliothèque, puis là, on était en coin, puis là, on était bien stressant, puis là, on se faisait des scénarios, genre, ouais. Puis finalement, c'était quelqu'un, justement, qui aurait fait, genre, des menaces sur les réseaux sociaux, puis qu'ils ont comme pas pris de chance. Puis même affaire, 2-3 ans plus tard, au cégep.
Où ça t'est arrivé 2 fois.
Ouais, 2 fois en 3 ans. Deux confinements barricadés. Ben, c'est pour ça que je vous le raconte.
Ben, il y en a eu un au cégep de Jonquière pendant que j'étais là aussi, donc.
Après,
oui. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait menacé des professeurs et tout.
Bon, ben ça brasse.
Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Millard, qui va présenter demain matin sa vision des relations canadiennes. Ce sera 4 engagements formels sur sa façon de gérer les menaces tarifaires du président américain. On voudrait mettre l'accent sur le fait de tendre la main et de rebâtir des alliances, entre autres, avec la Fédération canadienne. Il sera maintenant possible de faire votre renouvellement de passeport en ligne, un projet pilote qui avait été lancé en fin 2024. Ce programme avait un plafond de 1500 demandes en ligne par jour. Une fois la limite atteinte, il fallait attendre au lendemain. À partir de maintenant, si vous voulez faire votre renouvellement en ligne et que vous êtes un adulte canadien, ce sera possible. Pas pour les enfants, malheureusement.
J'ai-tu déjà raconté mon histoire de renouvellement de passeport?
Est-ce que c'est une vraie histoire?
Oui. Puis des auditeurs qui sont là depuis 2 ans pourront... Mes parents m'amenaient en voyage surprise, je savais pas où.
Ah, c'est bien cute.
Puis j'avais pas de passeport, fallait que je le renouvelle. Ce que j'ai fait des mois d'avance parce que mes parents m'avaient averti de le faire, grève de Poste Canada.
Non.
Et là, à un moment donné, c'était comme rendu la panique parce que là, le passeport allait pas arriver. Et là, il a fallu que je me rende au bureau, tout ça, puis que je refasse une demande, puis que là, express, sans passer par Poste Canada, puis tout. Mais là, quand tu fais ça, t'as besoin de preuves de voyage, puis tout ça. Mais là, moi, mes parents voulaient pas que je sache t'es où la surprise.
Oh.
Fait que ma mère avait fait imprimer des affaires. Je pense qu'elle avait demandé à Reg ou à Audrey de mettre ça dans une enveloppe confidentielle, genre.
C'était comme un gender reveal, que là, moi, quand ils mettent les photos d'échographie dans une enveloppe.
Que moi, j'ai amené... au bureau de passeport que j'ai donné à madame en lui expliquant un peu la situation de « Hey, c'est une surprise. Je sais pas c'est quoi les preuves de voyage, mais sont là-dedans. » Puis finalement, j'avais réussi à avoir mon passeport genre le jour avant de retourner à Val-d'Or pour partir en voyage, où finalement, c'était un voyage en auto. Donc là, à ce moment-là, les preuves, c'est plus compliqué parce que souvent, ils demandent des billets d'avion, tout ça. Là, je sais pas ce qu'il y avait dans la maison. Bref, ça a marché.
D'hôtel,
ouais, peut-être.
C'est ça... où finalement? Moi, c'est rien que ça, je veux savoir.
Chicago et Cleveland pour aller voir des matchs de football,
wow.
Notamment. Mes Seahawks qui jouaient à Chicago. Le pire match de jeudi soir de l'histoire de la NFL. Ça a été mon premier match en carrière. Mon premier match à vie, dans le sens.
Ta grande carrière de football?
Ça avait fini 6-3. C'est littéralement le pire match de jeudi soir de l'histoire de la NFL. 6-3. Mais au moins, mes Seahawks avaient gagné sur les Bears. Puis après ça, on est allé voir un autre match plate entre genre le 4e quart arrière des des Browns parce que tout le monde était blessé, puis le troisième corps arrière des Dolphins parce que tout le monde était blessé. J'ai pas été chanceux d'un match que j'ai pogné, mais ça a été un très beau voyage familial.
Là, quand Mathias va terminer ses nouvelles, on va te laisser.
Oui, on va y arriver.
Est-ce que je vais pouvoir revenir sur mon histoire d'ancêtre qui s'est fait tuer, puisque j'ai trouvé une preuve entre-temps?
Ah, bon, okay. Ben oui,
puis ça fait. Je vais pouvoir la raconter comme du monde.
Ta mère, t'as-tu fourni des détails aussi?
C'est documenté. Procès historique.
Pour vrai?
Qui est documenté et tout ça est disponible sur le web.
Ben
donc,
voyons.
Finis tes nouvelles, puis
parfait.
Je vous explique.
Parfait.
Ça.
La chasse à l'homme à Shawinigan qui s'est poursuivie aujourd'hui pour une troisième journée. On recherche toujours Philippe Benoît, 41 ans, qui est soupçonné d'avoir tué son propre fils. Puis ça se concentre du côté de la Mauricie. Sauf qu'un peu plus tôt aujourd'hui, on nous apprenait que des policiers, à la fois à Québec, à la fois à Lévis, restaient quand même aux aguets parce qu'on ne sait pas complètement où l'homme se trouve au Québec actuellement. C'est un homme qui a quand même un lourd passé en termes de santé mentale, un diagnostic de schizophrénie, de phobie sociale. À un moment aussi, par le passé, il aurait fait des menaces de mort sur son ex-conjointe et sur son fils. C'est dimanche qu'on avait retrouvé le cadavre du jeune homme de 16 ans, le fils de Philippe Benoît, au sein de la demeure de Philippe Benoît. Et depuis ce moment-là, on le recherche toujours du côté de la police. De grandes visites à la Maison-Blanche aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui était de passage. On a notamment discuté avec le président américain Donald Trump de licence pour la production d'intercepteurs Patriot, ces intercepteurs qui visent à la défense contre les missiles balistiques. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui était aussi de passage. Avec lui, ça a été entre autres la guerre en Iran, le conflit au Liban, qui ont animé les discussions entre les deux dirigeants. Et je termine avec le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, qui va se rendre à Washington cette semaine pour discuter avec les Américains concernant les plus récentes menaces tarifaires de Donald Trump.
Antonine, je te laisse à ton histoire dans quelques instants, le temps de faire les sports parce que Prime Video et Rogers Communication ont annoncé... Hey, puis il a commencé à mouiller solide dans le coin de Charlebourg. Là, c'est bien parti. Là.
Ouais.
J'ai pas vu d'éclair encore, vous le savez, si j'en vois, je vous tiens au courant, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, Prime Video et Rogers Communication qui ont annoncé une entente de 12 ans qui fera de Prime Video le diffuseur exclusif au Canada des matchs du mercredi soir de la LNH, autant en français qu'en anglais dès la prochaine saison, là, celle qui s'en vient là. Prime Video qui obtient aussi les droits exclusifs de diffusion au Canada, puis ça m'a plus surpris, de certaines séries... Des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ça veut dire que des séries, mettons, on va dire, deux séries de première ronde, il n'y aura pas de match, mettons, à TVA Sport. Pour deux séries au complet, ça va être sur Prime Video et aussi une des séries de deuxième ronde. Et ça, chaque année, ça va être comme ça.
Est-ce qu'il y a des chances que ce soit la série du Canadien?
Je pense pas.
Je me posais la question.
Je pense pas. Ça doit être dans le contrat de TVA Sport, je serais excessivement surpris du contraire. Et l'entente qui prévoit aussi la diffusion d'au moins 26 matchs nationaux de la LNH en saison régulière, des matchs qui seront offerts exclusivement sur Prime Video au Canada. Dans la NFL, le plaqueur défensif des Eagles de Philadelphie, Jalen Carter, a signé une prolongation de contrat de 4 ans, 152 millions, avec un montant de 106 millions garanti. MLB, victoire de 3-2 des Blue Jays en ouverture de série face aux Nationals de Washington hier, mené par le vétéran Max Scherzer à son retour au jeu. Ça fait une couple de fois. Max Scherzer, du retour au jeu.
C'est impossible.
Pas facile. Deuxième match ce soir. Et pour les Capitals, retour en action du côté de Trois-Rivières avec une série de trois matchs. Donc, qui s'amorce? Antonine Iacarini, on est tout oui.
Vous avez ri de moi?
On n'a pas ri de toi. On n'aurait jamais.
Vous m'avez pas cru.
On n'aurait jamais fait ça.
Vous avez douté?
Non.
Pas du tout.
J'ai retrouvé une archive de journal. Du petit Saguenayen, 27 janvier 1905.
Fait que dans les temps, on était là, début de l'ancien siècle.
Ben
là.
Oui, ma mère, elle raconte pas ses histoires n'importe comment. Qui se titre ainsi, « Meurtre à Saint-Fulgence, l'accusé Joseph Maltais, reconnu non coupable ». Le 4 avril 1904, dans le petit village de Saint-Fulgence, Joseph Laforêt était retrouvé mort chez lui à la suite d'une hémorragie cérébrale, selon les médecins. Son voisin, Joseph Maltais, a été mis en cause pour l'avoir frappé à la tête avec une pelle ou son poing. Les déclarations divergent. Ben. Quelques heures avant sa mort, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par le coroner Boilly, ou comme ils disent au Saguenay, Boilly. Et le lendemain, Maltais, ou comme ils disent au Saguenay, Maltais, était conduit à la prison de Chicoutimi. Il décide alors de se faire représenter par Maître Louis de Gonzague Bellé, avocat et conseiller municipal à Chicoutimi. Bref, je ne vous lirai pas l'article au complet, mais il y a eu un procès. Cet avocat a réussi à faire passer mon ancêtre pour un Christ de fou. Et finalement, M. Maltais, oui, Joseph Maltais, a été acquitté, ce qui a été vu comme une grande injustice par plusieurs personnes. Et d'où c'est venu cette histoire de meurtre? C'est que finalement, il y avait une chicane, effectivement, une mésentente, un litige là, concernant un bout de terrain. Alors, pourquoi je vous parle de cette histoire-là? C'est à la suite là, des deux personnes qui ont été accusées dans le cas de M. Langlois et sa femme en Dominique. C'était un litige de voisins. Alors, oui, la conclusion de cette histoire...
T'es pas une menteuse.
Un, je suis pas une menteuse. Puis deux, ça me fait peur, les chicanes de voisins. Honnêtement, il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête. Et qu'une chicane aussi niaiseuse qu'une corde à linge...
C'est pas sur qui tu tombes. C'est comme la rage au volant.
Oui.
Tu sais, tu peux être tenté de faire un fuck you à la personne qui vient de te couper. Tu sais pas si c'est quelqu'un qui va sortir avec une hache. Là.
Exactement. Puis en passant, moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Il s'obstinait avec quelqu'un par voiture interposée, puis un gars qui a montré une arme à feu dans sa voiture. Ça lui a donné une bonne leçon. Puis s'est dit, ben, à partir de maintenant, au lieu d'essayer d'éduquer les autres conducteurs, je pense que je vais me mêler de mes affaires.
Merci beaucoup, Antonine, pour cette belle leçon
de vie.
Merci
à vous pour votre écoute.
Au retour, j'arrête de vous faire languir. Deux billets pour la zone Kepler pour le match des Capitales de Québec du 20 août prochain. C'est le match boulevard. Et vous voulez être là, oui, parce que les Capitales, c'est tout le temps le fun, la bouffe est pas chère, tout ça. Mais aussi pour me voir procéder au lancer protocolaire et voir si je me rends au marbre. Le retour. 7h44 minutes. J'espère que votre retour à la maison se déroule bien. Sur la route, la 20 direction ouest, un ralentissement considérable qui commence à partir de mi-chemin entre route du président Kennedy et chemin des îles et qui se poursuit jusqu'à l'approche de Taniata. Petit ralentissement sur Henri 4 Sud, hauteur de la 40. La capitale est vers boulevard Pierre-Bertrand, c'est au rouge aussi, tout comme capitale ouest, hauteur de Laurentienne et Laurentienne Sud, la bretelle. Pour aller chercher capitale ouest, c'est au rouge. D'après moi, les conditions météo peuvent peut-être aussi amener quelques difficultés, là, notamment au niveau de la visibilité. L'aquaplanage aussi, parce que là, dans Charlebourg, dans les dernières minutes, ça s'est vraiment mis à tomber. On nous avait averti là, que ça s'en venait vers nous autres, vers le Bourgneuf, vers Charlebourg. Là, nous autres, on est vraiment dedans. C'est comment dans votre coin? 418-971-1021. D'ailleurs... C'est là que vous aurez besoin de ce numéro-là. Mais avant ça, 19 degrés présentement à Québec. Demain, 23 avec 40% de possibilité d'averse. Jeudi, 25 nuageux. Vendredi, belle journée. Pas mal la plus belle de la semaine. 28 ensoleillés. C'est dur à battre. Samedi, 27 nuageux, mais pas supposé avoir de pluie. Puis après ça, dimanche et lundi, peut-être de la pluie. Mais on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière. Allez voir le baseball au Stade Canac. Ça, c'est un bon plan d'été, pas mal tout le temps. Qu'il fasse beau ou pas, il n'y en a pas de problème. Tu mets le poncho, puis tu y vas. Le 20 août prochain, je vais le dire, là, c'est le match de la saison des Capitales à pas manquer. Parce que, bon, c'est contre les Miners de Sussex County, mais surtout, c'est le match présenté par Boulevard 102.1. Notez la date, le 20 août prochain. Et en tant que partenaire, notre escouade Boulevard sera là. Nos animateurs seront sur place et moi-même, Max Larouche, j'aurai le plaisir de faire le lancer protocolaire. Et pour vous, toute la semaine, on a des billets pour gagner deux accès dans la zone Kepler, qui comprend notamment trois consommations par personne et une ambiance de fou. Venez encourager donc les Capitales contre les Miners de Sussex County, vivre une ambiance festive dès 19h. Et en plus, les jeudis aux Capitales, ben, c'est toujours les soirées gin à 50%. Il y a des promotions comme ça chaque match, là, puis le jeudi, ben, c'est gin à 50%. Puis le 20 août, le match boulevard, ça tombe à être un jeudi. Et aussi, puis ça c'est tout le temps, la nourriture qui est à 3$. Ça se prend bien. CapitaleDeQuébec.com. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux auditeurs, Mathias et Antonine, pour gagner les billets pour la zone Kepler des Capitales?
Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur hot dog?
Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que vous mettez dans votre hot dog au 418-971-1021 texto? 418-971-1021, un texto, vous pourriez gagner deux billets pour la zone Kepler pour le match boulevard des Capitales de Québec le 20 août prochain face aux Miners de Sussex County. Qu'est-ce que vous mettez dans votre hot dog? 418-971-1021. Antonine, il y a un sujet qu'on n'avait pas eu le temps de traiter hier, puis ça continue de faire jaser cette semaine en raison d'une conférence internationale sur le sida qui se tient du côté de Rio de Janeiro cette semaine. Puis j'étais comme content de ne pas être le seul à avoir la réaction que j'ai eue, c'est-à-dire, hein, ça se guérit le sida.
Ouais, on va mettre des gros bémols.
Il y a en effet des bémols.
Bravo pour accrocher l'attention des gens avec une petite exagération.
J'ai pris des notes de la chronique communication que vous pourrez entendre sur le blvd.fm et l'app mobile Boulevard 102.
Exactement. Donc, effectivement, il y a cette conférence en ce moment. Puis le sida, ben vous êtes jeune, là, mes chers collègues. Moi, quand j'étais plus jeune, quand cette épidémie a été déclarée dans les années 80...
Ça faisait peur pour vrai.
Ça faisait peur. Donc, une maladie grave qui se transmettait quand même assez allègrement et pour laquelle on n'avait aucun remède. Puis des décennies plus tard, on n'a pas vraiment encore de remède à cette maladie-là. On parlait beaucoup aussi de faire un vaccin. On n'a toujours pas de vaccin contre le VIH. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui sont ressorties à l'occasion de ce sommet-là, qui nous donne l'occasion un peu de faire le bilan de tout ça. Et cette bonne nouvelle, puis celle qui t'a accroché, là, c'est qu'il y a une dizaine de patients pour qui le VIH n'est plus détectable dans leur sang.
Donc, on parle de vraie guérison totale.
Parce que les médicaments sont rendus assez efficace.
Ça te permet de bien vivre avec.
Oui, et même des fois, le virus est indétectable dans le sang d'une personne qui fait sa trithérapie. Mais quand la trithérapie arrête, ben le virus revient, la charge virale va remonter. Mais là, on a des patients, dont un patient à Toronto, qu'on appelle le patient de Toronto, pour qui la trithérapie a été arrêtée et que le virus n'est pas de retour des mois plus tard, voire des années. Donc, ça donne cette espèce d'espoir. Le problème, c'est que les scientifiques ne comprennent pas exactement pourquoi. Donc là, ça va être les prochaines étapes d'apprendre de ces patients-là comment on peut faire la médication et aussi des alternatives chirurgicales ou des remèdes chirurgicaux qui viennent s'ajouter à la trithérapie. Et là, entre en jeu la moelle osseuse. Les greffes de moelle osseuse, les personnes, par exemple, qui sont atteintes de certains cancers, de leucémie, vont se tourner vers la greffe de moelle osseuse. Et ça, ça fait une espèce de reset dans ton corps. Donc, quelqu'un qui est atteint de leucémie et qui obtient cette greffe-là peut changer carrément de groupe sanguin.
Ouais.
Une personne qui a une greffe de moelle osseuse doit se refaire vacciner parce que tous les vaccins que tu as reçus depuis l'enfance, il n'y a plus rien qui tient. Mathias Solaire, présentement très dubitatif, je te laisse réagir.
Non, mais je suis étonné. Ce simple changement-là fait en sorte que physiquement, tu deviens une personne complètement différente.
Absolument. Parce que la moelle osseuse, c'est là que sont produites le sang. Les globules de ton sang. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est carrément un reset. Quelqu'un qui a eu une greffe de moelle osseuse dans le cadre d'un cancer, par exemple, doit vraiment, une fois qu'elle n'est plus immunosupprimée et que sa greffe est bien prise et qu'on est sûr que tout va bien, doit refaire la ronde de vaccination. Pourquoi je vous parle de vaccination? Ça n'a pas rapport avec le sida, mais c'est juste pour vous montrer à quel point...
C'est le reset, là.
C'est le reset. Donc, c'est ça qui nous donne le plus d'espoir. On va continuer, évidemment, de surveiller ça. Ici, en Amérique du Nord, c'est sûr que on est moins dans cette époque où les gens apprenaient qu'il y avait le sida autour de nous, là, puis que c'était vraiment l'épidémie. On la sentait beaucoup ici. Mais il y a quand même 91 millions de personnes qui ont été infectées par ce virus-là à travers le monde. 44 millions de personnes qui sont mortes depuis le début de l'épidémie en 1981. Je trouve que c'est bien que le sujet soit un peu de retour parce que c'est moins un sujet à la mode, mais ça demeure quand même une épidémie importante.
Comme dirait Charles Tissard, c'est fascinant. Félicitations à Audrey Rosque qui remporte ses deux billets pour la zone Kepler pour le match des Capitales de Québec présent présenté par Boulevard 102.1 le 20 août prochain. Audrey Ross, que je t'ai envoyé par texto, là, comment réclamer ton prix. Nouvelle de dernière minute qui nous est rapportée par TVA Nouvelles, qui a appris que le gouvernement du Québec réduisait encore une fois les règles environnementales pour certains projets. C'est pas la première fois dont on parle de ça. Puis comment on le vend du côté du gouvernement, c'est de dire qu'on enlève la paperasse inutile. Ce que TVA Nouvelles a appris, c'est que la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Pascale Dieri, a revu une partie importante des exigences administratives visant les projets à risque faible, modéré ou négligeable en matière d'environnement. Fait que ce qu'on comprend, c'est que les projets où on sait qu'il y a des risques plus importants, on ne l'entre pas là-dedans. Là, c'est vraiment pour les projets à risque plus faible. On va quand même jusqu'à modérer. Une demande de simplification, nous dit-on, qui était réclamée depuis longtemps par les municipalités, par le milieu des affaires.
Une urgence nationale.
À un certain point, certains en ont assurément parlé comme d'une urgence nationale. On dit que c'est quand même 400 exigences réglementaires réparties dans une vingtaine de règlements environnementaux qui sont revus là, pour simplifier les démarches. Et le ministère pense que c'est un allègement qui permettra de générer des économies de plus de 120 millions de dollars par année et de réduire de près de 46 500 heures le temps consacré aux démarches administrative. En entrevue avec TVA, la ministre Dieri a dit est-ce qu'on est obligé toujours d'avoir des processus aussi complexes que lorsqu'on parle d'un grand projet d'envergure qui passe à travers le BAP, qui passe à travers un processus beaucoup plus lourd et complexe? La réponse, c'est non. On est capable de gérer le risque de manière plus efficace, fait qu'on vient réduire le nombre d'autorisations ministérielles. Mais évidemment que là, il y a des groupes environnementaux qui pourraient grimper d'un rideau. La ministre qui dit que non, les allègements se feront pas au détriment de la protection de l'environnement. Puis elle vient citer l'exemple d'un projet qui consiste simplement à raccorder deux sections de tuyaux qui ne nécessiterait plus une autorisation ministérielle qui pouvait prendre de 6 à 8 mois.
Ouais, c'est un exemple frappant, là.
Oui. Puis on pourrait revenir ici à ton petit cours de communication de 16 heures où là on prend un exemple.
Une anecdote.
Qui est très poussé, une anecdote pour dire non, ce sera pas pour les projets qui peuvent apporter des dommages à l'environnement. C'est pour des projets comme juste raccorder deux tuyaux. Avant, ça pouvait prendre une autorisation qui prenait 6 à 8 mois.
Ouais, c'est sûr, c'est un exemple frappant, mais. T'sais, un projet qui affecte un milieu humide. Puis là, je sais que c'est pas ça, les gens sont pas dans leur lit là, à faire des cauchemars, ces milieux humides, mais chaque projet individuellement, on s'en fout. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus de milieu humide, on a un enjeu environnemental qui est plus large. Maintenant, moi, je m'interroge sur le timing. Là, on est vraiment rendu fin juillet. Là.
Oui.
Les élections sont dans un mois. Là.
Ça me semble encore une fois assez électoraliste.
Oui, mais c'est ça. Puis il n'y a pas d'argent qui est impliqué là-dedans, de fonds publics nécessairement. On parle d'une simplification bureaucratique. Tout le monde va être pour ça. Mais là, je trouve que ça commence à être tard pour faire des gros changements de politique publique, mais enfin.
Mais c'est surtout moi, ce qui me gosse au-delà de oui, il est rendu tard, puis c'est des changements qui sont importants et tout ça. Mais c'est dire, vous êtes là depuis 8 ans.
Ouais, mais ça, c'est un classique. Tu sais, c'est comme si la dernière année, là, le gouvernement ne pouvait plus rien promettre ou proposer parce qu'il aurait dû tout faire avant.
Ah, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça dans ce cas-là. Là, c'est qu'on dirait que la CAQ, là, depuis une couple de mois, c'est. Là, on y va vraiment avec tous les changements qu'on promettait. Puis, on vous l'avait dit qu'on couperait dans la paperasse il y a 8 ans. Regardez, là, on le fait.
Mais c'est la presse qui avait fait une compilation. C'était 4 fois plus de présence
que l'année passée.
Que l'année dernière.
Mais ça, si tu les mets en comparaison, c'est fou. Parce que l'été passé, c'était le moment où François Legault avait annoncé vraiment d'avance un remaniement. Il se passait plus à rien d'un cabinet et d'un ministère, là. Rien, là. C'était des grosses vacances, là.
Fait qu'il y a un effet qu'il y en a plus cette année, mais aussi qu'il y en avait moins l'an dernier, que je comprends.
Bien, il y a un contraste, puis il y a une espèce d'envie de rattrapage qui vient s'ajouter au fait que Christine Fréchette veut faire des affaires puis montrer qu'elle a des propositions puis que la CAQ n'est pas finie puis qu'il y a encore des choses à réaliser. Cela dit, est-ce que, encore une fois, les gens sont pas tellement à l'écoute en ce moment, mais c'est comme une forme d'engagement électoral sous forme de politique publique.
Donc, on utilise le fait qu'on est au pouvoir. Mais
ben oui.
C'est quelque chose qu'on voit à chaque élection. Le parti au pouvoir va faire des politiques de ce genre-là, puis va accélérer les annonces. Mais est-ce qu'on le voit encore plus cette année,
ben oui,
en raison de l'arrivée de Christine Fréchette?
Le fait que la CAQ ait une nouvelle chef fait en sorte qu'elle a encore plus à se prouver, puis qu'elle veut montrer que c'est elle, pas comme François Legault, puis qu'elle a des croûtes à manger pour gagner le cœur des Québécois. Donc, je pense qu'on est devant un feu d'artifice de mesures, puis de même de dépenses, là, parce que là, on parle d'une mesure qui coûte pas de sous. Mais il y en a eu, là, des dépenses, des baisses de taxes, puis l'immatriculation qui a baissé, puis les bartends qui sont détaxés.
Je termine avec une bonne nouvelle dans le monde du sport, puis c'est par texto, là, quelqu'un qui « Max, tu parles pas de Maud Charron? » Ben oui, on va en parler vite fait, là. Maud Charron qui gagne la médaille d'or pour les 63 kilos en haltérophilie. C'est les Jeux du Commonwealth qui ont lieu présentement du côté de l'Écosse. C'est le troisième titre de suite pour Maud Charron dans cette compétition-là. Maud Charron qu'on avait, c'est une fille de Rimouski maintenant, 33 ans. On l'avait surtout... connue aux Jeux olympiques. C'était-tu de... Ben oui, on l'avait vu quand même du côté de Paris, mais aussi du côté de Tokyo. On avait appris à connaître, puis on était tombé sous le charme de Maud Charron. Donc, pour qui ça va bien en ce moment du côté des Jeux du Commonwealth, du côté de l'Écosse. Merci beaucoup d'avoir été là dans le show aujourd'hui. Mathias Turcotte, Antonine Iacarini, Max Larouche avec vous cette semaine jusqu'à jeudi. Après ça, on lance la fin de semaine avec, ce sera Dan Caron qui va être là à 14h vendredi. On restocke vendredi quand même le matin et le midi. C'est juste qu'on lance la fin de semaine un peu plus de bonne heure. Puis je vous rappelle que dès lundi prochain, Denis Gravel sera de retour avec la vraie équipe de Gravel dans le retour. Avec Denis, avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot qui seront avec vous. Mathias, bonne soirée.
Bonne soirée.
Antonine, merci, à demain.
À demain.
Et je vous laisse au bon soin de Marceau. Rediffusion d'un Marceau le soir. Ben le fun avec Dominique Paquet. Salut, ciao, bye.
Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau. Ouais, ben Marceau.